Bonjour Kevin, comment ça va?
Ça va bien, et toi?
Ça va bien aussi, merci. Bienvenue évidemment à Rembobinage, rendez-vous cinéma-télévision. Kevin, on poursuit un peu notre exploration du cinéma québécois. Et là, j'oserais peut-être même dire cinéma haïtien, ou en tout cas haïtiano-québécois, québécois-haïtien, je ne sais pas comment on peut définir ça. Bref, qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin?
On écoutait le film Canaval de Henri Pardo. C'est un premier long métrage.
Effectivement, Henri Pardo. En fait, je pense qu'il avait déjà fait un documentaire, mais
Ah oui,
effectivement, un long métrage de.
il a fait des documentaires, mais je crois que c'est son premier long métrage de
Oui,
fiction.
effectivement. Je pense qu'il avait fait un documentaire sur Jackie Robinson, la très brève période où il était à Montréal. Bon, la communauté de Petite Bourgogne aussi, la communauté noire à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Bref, voilà. Donc, Henri Pardo qui a fait Canaval, c'est sorti. C'était passé au TIFF l'an dernier. Et donc Festival de films de Toronto, une petite ville de province, là, Toronto. Et donc c'est ça, là, c'est sorti en salle au Québec il y a quelques jours maintenant. Vous allez écouter cet épisode-ci. On l'enregistre le 9 mai. Ça, vous allez écouter cet épisode évidemment dès sa sortie, donc le 10. Je sais que vous êtes un public qui attendait avec impatience chaque épisode de Rembobinage. Voilà. Donc Canaval, effectivement. Est-ce que tu aimerais nous résumer un peu l'intrigue du film?
Oui, comme tu disais, ça parle du Québec, ça parle d'Haïti, c'est un mélange des deux, c'est une histoire d'immigration. Quand ça commence, on est en 1975 à Jacmel, en Haïti, et bon, le titre Canaval, ça fait penser à Carnaval, et c'est de ça qu'on parle. Peut-être les premières 20 minutes du film, c'est vraiment une séquence pendant le Carnaval de Jacmel. Il y a des gens partout dans les rues qui sont costumés, c'est très festif. Mais en même temps, derrière ça, il se cache des trucs plus dramatiques. Si les gens, moi, je connais pas beaucoup l'histoire d'Haïti, mais je pense qu'on sait quand même qu'il y avait une dictature de Duvalier à cette époque-là, beaucoup de violence, tout ça. Et après cette première introduction du film en Haïti. Il y a le personnage principal qui est un enfant d'à peu près 10 ans qui s'appelle Rico. Lui et sa mère quittent Haïti dans des circonstances tragiques, puis après quelques détours, ils se ramassent au Québec. Je pense que c'est jamais dit c'est quoi la région exacte ou le nom du village, mais c'est très rural. On
Oui.
devine que c'est probablement dans l'est du Québec, peut-être dans le coin de la Gaspésie ou tout ça, parce que les gens ont un certain accent. Et le reste du film, c'est pas mal une histoire d'immigration, comme on a vu, mais du point de vue d'un enfant qui, lui et sa mère sont accueillis par un couple qui sont joués par Martin Dubreuil et Claire Jacques. Eux sont super bienveillants, ils accueillent vraiment chaleureusement, mais en même temps, dans le village, en tant que seule personne noire à cette époque-là, ils font face à du racisme, le
Ouais.
petit gars, il fait face à de l'intimidation, quand même assez brutale. Et c'est ça, ou peut-être un dernier truc que je veux mentionner sur l'histoire, parce que c'est ça, c'est pas un film qui a vraiment plein de rebondissements, tout ça, mais ce qui le distingue un peu, c'est qu'on est vraiment dans le réalisme magique,
Ouais.
donc tout ce qui est la mythologie haïtienne se retrouve un peu. C'est comme si l'imagination du jeune garçon se manifestait à l'écran, à un moment donné, une espèce d'orignal qui parle. Il y a aussi un ami imaginaire qui a comme la peau très noire avec des cornes. Comme je disais, je connais pas tous les détails de la culture haïtienne, mais selon ce que j'ai lu, c'est vraiment, ça reflète des trucs, selon les croyances et la spiritualité haïtienne.
Oui, ben c'est très bien résumé d'abord, puis ensuite. C'est ça, la question de la mythologie haïtienne. Puis bon, clairement, j'en connais sans doute encore moins que toi sur cette question-là. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, cette représentation de la mythologie haïtienne, de la culture haïtienne sous forme d'imaginaire. Dans la scène du carnaval au début du film, on a c'est une espèce de, rapidement on comprend que les personnages qu'on nous montre, oui, ce sont techniquement des gens déguisés, mais ce sont aussi une représentation du clash culturel, social, politique en cours en Haïti à ce moment-là, dans les yeux d'un enfant. Rico comprend pas grand-chose. Clairement, sans doute que toi et moi, à 10 ans, on comprenait pas non plus les tenets aboutissants de la vie politique québécoise ou canadienne. Mais donc, c'est ça. Et voit tout ça en concentré, donc le soir du carnaval. Et on comprend que, bon, des personnages sont habillés. Mais il y a une partie de domino, je pense, entre différents personnages. Et là, t'as le pasteur, t'as l'américain, t'as la mort et la syphilis, je pense. Et tu dis, OK, c'est particulier comme personnage, mais on comprend que, ben évidemment, le pasteur, c'est l'influence religieuse, l'américain, c'est l'influence du voisin américain, la mort, ben c'est le fait qu'en Haïti, malheureusement, il y a beaucoup trop souvent de tragédies. Et la syphilis, ben, j'imagine, c'est un peu un lien avec la mort, c'est-à-dire la santé publique est pas toujours au point, les hôpitaux, tout ça. Bon, peut-être que j'extrapole un peu, mais je trouve ça très intéressant la façon dont c'est montré. Et ça le suit, c'est ça, ça suit le jeune Rico au Québec avec cette implémentation-là, comme tu l'as mentionné, de cet imaginaire fantastique qui est en fait un peu ce que tout enfant, j'imagine, déraciné, implanté dans une culture qu'il connaît pas du tout, dans un monde qu'il connaît pas. Bon, clairement, en Haïti, il a jamais vu de la neige, entre autres. Donc, il arrive ici les hivers québécois, surtout les hivers de campagne québécois. En 1975, quand il y avait encore des hivers au Québec. Et là, donc, se crée un ami imaginaire parce qu'il n'y a pas d'amis, parce que les jeunes qui fréquentent, on le voit à quelques reprises seulement, je pense que les seuls jeunes qui fréquentent, ils font subir de l'intimidation, au moment donné, c'est même violent. Donc, il est tout seul et sa mère quitte à un moment donné aussi pour aller à Montréal. Donc, face à ça, ben forcément, il faut qu'il s'invente une amitié, il faut qu'il s'invente un monde pour survivre, passer à travers ça. Donc, de ce côté-là, je trouve ça franchement intéressant. Toi, est-ce que c'est venu un peu te chercher, cette représentation?
Oui, à certains égards. Si les gens me connaissent pas, moi, je suis pas immigrant. Je suis né à Montréal, mais mon père biologique était un immigrant haïtien. Mm-hmm. Donc, ma mère est blanche, fait que je suis métisse, j'ai la peau quand même plus foncée, puis moi j'ai grandi en région à Trois-Rivières, donc tu sais, j'ai pas connu de racisme ultra extrême, mais quand même j'avais une certaine différence, il y avait certains commentaires, des fois parfois dans le cours d'école ça brassait un peu, mais tu sais, je veux pas dire que c'est super extrême, c'est vraiment pas ce qu'on voit dans le film Carnaval. Mm-hmm. Mais il y a quand même des petits éléments que, en ayant été un enfant différent, d'une couleur différente, que je pouvais me reconnaître, tu sais, dans le côté, c'est ça, il y a un côté un peu triste là-dedans, mais en même temps il y a des belles choses dans le film. Puis, je trouvais ça quand même bien qu'il y avait quand même des nuances de montrer... Tu sais, c'est pas un film qui dit « Ah, le Québec des années 70, tout le monde était raciste. » Il y a de ça, ça existe, mais il y a vraiment des personnages de Québécois blancs comme ceux de Claire Jacques et Martin Dubreuil que, mm-hmm. comme je disais, sont super bienveillants. Puis, je trouvais ça le fun de montrer que... Tu sais, justement, il peut avoir des gens racistes, il peut avoir des gens qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Puis, c'est ça. Ça, c'est des trucs que j'ai aimé dans le film, quand même.
Ben justement, là, je t'ai proposé la traditionnelle question. Est-ce que tu as aimé Carnaval?
Ben, c'est ça. Je suis très mitigé. Tu sais, là, j'ai mentionné quelques trucs que j'ai aimé. J'ai aimé beaucoup la première partie pendant le carnaval à Jacmel. Je trouvais que c'était super coloré, la photo mm-hmm. était super belle. J'aimais la musique qu'il y avait, les costumes, tout ça. Puis j'étais comme « wow, ok, je vais adorer ce film ». Puis quand on arrive au Québec, c'est ça, je trouvais un peu que... Tu sais, il y a des trucs, tu sais, c'est peut-être inévitable, mais dans les histoires d'immigration, il y a eu beaucoup aussi, outre l'immigration, il y a eu beaucoup de films sur l'enfance au Québec depuis une dizaine d'années. Donc, il y a quand même des trucs que t'es comme, ah, ok, bon. Puis, aussi, de façon plus générale, je trouve que le film est trop long.
OK.
C'est un film qui dure à presque 2 heures. Puis, tu sais, nous, on dit qu'on aime bien le 90 minutes réglementaire.
Oui.
Puis ça, c'est un film où je l'ai quand même beaucoup ressenti. Je trouvais que il y avait des longueurs, il y avait des répétitions. Il y a beaucoup de choses qui se passent au milieu du film, que chaque élément, que ce soit les trucs imaginaires ou les trucs qui se passent dans le village, chaque élément revient 2, 3, 4 fois.
Mm-hmm.
Je pense qu'on aurait pu resserrer un peu.
Possiblement. J'avoue que c'est un film qui est très... Je peux pas dire que c'est très lent. On n'est pas dans « Tu ne sauras jamais », le film de Robert Aubert, qui est un autre genre complètement, où ça commence, comme on le disait dans notre épisode, avec un plan d'à peu près 5 minutes, là, où il se passe rien. Mais oui, là, je comprends, je vois ce que tu veux dire. On cherche un peu le... Tu sais, c'est un film qui semble être vouloir, malgré l'imaginaire, malgré la fiction, tout ça, c'est un film qui semble vouloir être réaliste, dans le sens où tu arrives quelque part où tu connais pas les gens, où tu t'essaies de t'intégrer, ben c'est sûr que généralement, c'est pas rempli de rebondissements. Tu t'intègres plus ou moins, tu fais la connaissance des gens, là, dans ce contexte-là. Bon, les années 70 au Québec, dans certaines régions du Québec, peut-être un peu plus raciste, malheureusement. Bon, c'est encore le cas aujourd'hui peut-être, mais bref, c'est quand même 50 ans à peu près là, dans le film. Les mentalités ont changé, clairement. Mais non, je comprends ce que tu veux dire, la lenteur. J'apprécie en un certain sens que c'est un film qui prenne son temps. Mais oui, sur le fait qu'à un moment donné, ça se répète ou t'attends qu'il se passe quelque chose, un peu. Et je te dirais que j'ai commencé à écouter le film et après, comme tu disais, bon, la section en Haïti, je savais à peu près où ça s'en allait. Il y a pas de surprise. Tantôt, on se parlait sur Twitter. En fait, l'artiste anciennement connu sous le nom de Twitter. et je te disais, bon, ben regarde, on devait enregistrer 3h30, nanana. Je te dis, le film se termine, ça sera pas très long, et j'ajoute, tout le monde meurt. Puis là, tu m'envoies un gif de planète qui explose. Ça serait une méchante twist. Parce qu'il n'y a pas de grosse twist. C'est pas que ça soit nécessaire, mais c'est un film où, bon, on va peut-être divulgâcher un peu. Il arrive au Québec, il essaie de s'intégrer, ça marche pas toujours bien. Puis c'est ça. à la fin du film, on semble être proche de quelque chose. Puis finalement, il y a un changement. Puis bon, on dira pas ce qui se passe exactement, mais tu sais, on n'a pas... Autant je m'étais investi émotionnellement avec ce petit garçon-là. D'ailleurs, on va parler des acteurs dans quelques instants. Autant je n'étais pas surpris de ce qui s'est passé. Donc,
Ouais, non, c'est ça. C'est comme... tu sais, à un moment donné, le personnage de Martin Dubreuil, il commet un crime. Disons que je vais pas dire exactement qu'est-ce qui se passe, mais c'est rien de trop extrême, mais il veut voler quelque chose. Oui. Et le petit gars se trouve à le suivre puis être témoin de ça, puis on se dit peut-être, ah ok, là c'est un gros pivot dramatique, il va se passer quelque chose, est-ce que le personnage de Martin Dubreuil va se faire arrêter, ou tu sais, ça va tout bouleverser, puis bon, finalement, ça mène pas à grand chose. Mm-hmm. Cette séquence-là aurait pu pas être dans le film, si je me trompe pas. Mais il me semble qu'il y a pas vraiment de conséquences. Puis il y a quelques trucs comme ça qui se passent que t'es comme ah ok, wow, là on arrive à quelque chose. Comme il y a une séquence de chasse qui est quand même intéressante, mais encore là, on nous avertit que ah, ils vont peut-être se faire pogner parce qu'ils ont tué une femelle enceinte, ils devaient pas, nanana, tu sais, on pense qu'il va se passer quelque chose de très dramatique, puis finalement ça mène à rien non plus. Fait que je trouvais qu'il y avait beaucoup de ça dans le film.
Oui, ben c'est parce qu'on nous crée une espèce de personnage de méchant et qui en fait joué par Sylvain Massé. D'ailleurs, je me disais que sa face me rappelait quelqu'un. Et donc, c'est un personnage de méchant, guillemets, qui est, bon, un Québécois, un colon. Là, t'sais, c'est pas... tu sais, il est raciste. D'ailleurs, il utilise abondamment le mot « haine ». puis tu sais, bon, il dit des méchancetés, puis il est assez violent, puis tout ça, puis tu vois que c'est un peu le caïd du coin, là, tu sais, justement, les magouilles, puis tu sais, bon. Mais à plusieurs reprises, comme tu dis, ils disent, ah, il va se passer quelque chose, puis là, ah, ils ont essayé d'être plus intelligent que le caïd, ou ils ont essayé de l'attraper ou de l'arnaquer ou je sais pas trop quoi, puis il se passe pas grand-chose, tu sais, il y a des moments un peu plus tendus, mais ultimement, il semble pas y avoir de conséquences pour personne, donc tu te dis, OK, est-ce que c'était juste pour nous montrer qu'en région, il y a des gens pas fins? Bon, on pouvait s'en douter un petit peu, là. Tu sais, on n'est pas dans Arsenault et Fils, par exemple, là, où vraiment, tu sais, t'as une grosse tension, là, pendant une bonne partie du film.
Ben, c'est le fun que tu mentionnes Arsenault et Fils, le film de notre ami Raphaël Ouellette, qui était beaucoup mieux construit, qui avait une tension qui demeurait pendant tout le film. C'était vraiment un bon scénario, tu sais, qui a vraiment une construction narrative que on comprend tout le temps où que ça s'en va, puis il y a quand même des surprises, tout ça, mais le film finit, puis t'es comme, ah, OK, je comprends, on m'a raconté une histoire, puis ça se tenait. Puis je trouve qu'un des défauts de Cannaval, c'est que je trouve que le scénario a des lacunes, là, tu sais, Il y a beaucoup de flottement dans le scénario.
J'aimerais quand même qu'on prenne le temps de souligner, je pense, le bon jeu de Ryan Dieudonné, qui joue Rico. Qu'est-ce que tu en as pensé de son
talent? Oui, ça, je dirais que c'est peut-être la plus grande qualité du film. T'sais, je mentionnais que j'aimais la direction photo ou en partie la réalisation, tout ça. C'est un film qui est beau visuellement, mais encore plus que ça, j'ai vraiment adoré Ryan Dieudonné, qui est le jeune acteur de, je pense, qui a 9 ans ou 10 ans, qui est vraiment extraordinaire. C'est son premier film, je crois. Il est super naturel, convaincant. Il transmet des émotions, puis tout ça. Puis ça fonctionne au bout, là.
Oui, oui, absolument. Puis c'est... Tu sais, des fois, on prend des gens plus âgés pour jouer des plus jeunes. Jamais l'inverse est âge. On va pas prendre un garçon de 10 ans pour jouer un ado de 15. Ça serait bizarre. Mais... souvent, quand c'est des adolescents, c'est facile de dire on prend quelqu'un début vingtaine pour jouer quelqu'un qui a 15 ans ou 16 ans, peu importe, et ça paraît à l'écran. Je me souviens, dans le premier film de Xavier Dolan, il est dans une classe à un moment donné, puis tu vois que c'est lui là qui est l'adulte. Tous les autres, c'est des ados. Ça paraît que c'est bon, il est pas à la bonne place. Mais non, c'est ça, dans ce cas-ci, il y a... Bon, quel âge a-t-il exactement, c'est ça. Je pense que tu l'as bien mentionné. Mais il joue son âge. Et c'est un âge où, tu sais, c'est ça, t'as encore des amis imaginaires, t'as encore une espèce de croyance de dire, bon, il y a un côté fantastique peut-être dans certaines choses, et dans ce cas-ci, en plus, je veux dire, c'est un garçon qui fuit pas fuit la guerre exactement, mais tu sais, fuit l'oppression, c'est un réfugié, que sa mère, tu sais, il a vu sa mère être agressée, être battue, il y a eu, bon, un certain drame à un moment donné qu'on mentionnera peut-être pas, mais tu sais, sa mère a subi beaucoup de choses, et lui a été témoin de ça, et clairement, lui-même a été traumatisé, et puis là, il arrive, ça, encore une fois, à un endroit qu'il connaît pas. Oui, ça parle français, mais des fois, t'as l'impression qu'il parle pas la même langue du tout. D'ailleurs, tu disais, bon, ils sont peut-être en Gaspésie, dans ce coin-là. Il y a plusieurs séquences de déjeuner, et c'est un couple, le couple formé par les personnages de Claire-Jacques et Martin Dubreuil, qui mangent des ploys. C'est pas des crêpes, c'est des ploys. Alors, c'est un plus. Je ne sais plus exactement s'il y a une différence entre les deux, mais bref, c'est une appellation, je dis appellation contrôlée, là, mais c'est une appellation régionale avec bien de la mélasse.
Ouais.
Ça fait très Québec d'une autre époque, mais j'adorais ça, c'était très intéressant. Mais bref, ça pour dire qu'effectivement, Ryan Dieudonné, très, très bon acteur là-dedans. Donc, vraiment, vraiment rien à dire. J'ai beaucoup aimé les échanges. Ils sont pas très nombreux. Il y en a, je pense, deux ou trois. Les échanges entre le personnage de Cécile, qui est Claire-Jacques, et la mère de celle qui joue la mère de Rico ou Ryan, peu importe, qui s'appelle Pénande Estime ou Estimé, je sais pas. Je m'excuse si je prononce mal son nom, là. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, sur ces quelques échanges-là?
Oui, non, je trouvais ça bien. Je trouve que ces deux actrices-là sont bonnes aussi. La mère, je trouve que... Je pense pas que c'est un problème avec l'actrice, mais avec le scénario, je trouve que souvent, ces dialogues sont un peu didactiques. On s'est très appuyé, Mais c'est quand même, il y a quand même des scènes intéressantes. Je veux mentionner aussi, on a dit son nom quelques fois, mais Martin Dubreuil, moi, c'est vraiment un de mes acteurs québécois préférés. Puis encore là, dans ce film-là, ça fait vraiment du bien qu'il soit là. Puis c'est quand même un beau rôle. Puis tu sais, même si je trouvais que pendant le film, il y avait des longueurs, tout ça, mais à chaque fois qu'il y avait Martin Dubreuil à l'écran, j'étais comme « Ah, OK, ce personnage-là, je l'aime, je le trouve intéressant, j'aime sa dynamique avec le jeune garçon. » Bon, tu sais, il y a vraiment... j'étais content qu'il soit dans le film, là.
Ben, on avait parlé de lui récemment quand on a parlé du film Une femme respectable.
Oui, absolument. On avait dit beaucoup de bien de lui aussi dans ce cas-là.
Voilà, donc très bon acteur. D'ailleurs, assez occupé le monsieur. Il a fait 4 films l'an passé. Il est déjà rendu à 2 films cette année. Donc, j'imagine qu'un calendrier assez chargé. Avec raison, encore une fois, comme on dit, c'est un bon acteur. Puis là-dedans, on lui donne vraiment un bon rôle. Parce que ça aurait été facile, je pense, d'avoir quelqu'un... C'est un peu cliché de dire, OK, les immigrants, d'être un peu raciste. Puis finalement, que là, il devient, tu sais, c'est un raciste, mais il a un grand cœur, puis là, il devient gentil, puis tout ça. Puis ça aurait été facile, même si ça aurait pu fonctionner pareil. Mais là, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, il est ouvert, il est gentil, il est accueillant, un père de substitution, puis il fait vraiment attention. Puis tu sais, on sent que lui aussi, il a une vie qui est pas évidente. Et bon, tantôt tu le mentionnais, il fait un peu de criminalité on the side là. Puis ça n'a pas l'air d'être un couple non plus qui est très riche là. Donc voilà, c'est un personnage en profond, beaucoup de nuances, mais sans qu'on ait besoin de trop plonger là-dedans. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique dans Carnaval?
Ben, c'est ça, j'ai mentionné qu'au début, dans la partie qui se passe à Haïti, il y avait de la musique vraiment qui est jouée par des musiciens dans la rue, tout ça, que ça j'aimais beaucoup. Plus tard dans le film, je pense que c'est assez subtil. C'est pas un film qui a de la musique mur à mur, mais la quantité qu'il y a, c'est correct. Là. Je pourrais pas dire grand-chose sur la musique en général. Je trouvais que c'était correct. Là.
OK. Ben, j'avoue que c'est ça. Moi, comme tu l'as mentionné, effectivement, quand c'est le carnaval, bien évidemment, c'est de la musique de carnaval, c'est très enjoué. Puis donc, ça, c'est très intéressant. Par la suite, effectivement, ben, quand c'est des moments plus imaginatifs, on a une musique qui est à l'avenant. Mais effectivement, il n'y a pas rien de qui me reste en tête. Là. On n'a pas un thème musical. On parlait de Terminator récemment. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. Mais tu sais, Terminator, tu as le thème de Terminator. Je pense pas que dans 25 ans, on va dire « Ah oui, le thème de Carnaval, c'était ça. » Puis voilà, quand l'immigrant haïtien robotisé attaque la poste de police. Seigneur. Est-ce que tu recommanderais quand même Carnaval?
Ouais, ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment un cas que... Allez voir, mettons, la bande-annonce, puis essayez de voir, est-ce que c'est un film qui vous parle, qui vous attire? Tu sais, il y a des qualités. Visuellement, c'est intéressant. Les acteurs, particulièrement le jeune garçon, sont très bons. Mais c'est ça, je peux pas le recommander complètement, vu que moi, j'ai vraiment trouvé que c'était pas un scénario à toute épreuve, puis qu'il y avait trop de longueur, tout ça. Fait que c'est comme... Je regrette pas d'avoir vu le film. Il y a des trucs intéressants, il y a des trucs quand même presque touchants, tout ça, mais je trouve pas que c'est un film qui est parfaitement réussi.
Mais c'est ça, je trouve que, tu sais, comme je disais tout à l'heure, on peut déjà prévoir ce qui va se passer. T'sais, on peut déjà imaginer, OK, ça va être ça le déroulement du scénario, puis c'est à peu près ça qui se passe. On aurait aimé, tu l'as fait mention aussi, que les espèces de péripéties qu'on nous ajoute ici et là, que ça débouche sur quelque chose, qu'on ait un peu d'enjeu scénaristique à un moment donné ou à un autre. Ça reste un bon film. T'sais, on l'a dit, la technique est intéressante, les acteurs sont bons, les couleurs, bon, le visuel, c'est intéressant aussi, surtout, bien sûr, quand on est en Haïti. Mais j'ai aimé aussi l'idée, le charme un peu suranné du Québec des années 70, C'est un peu brun, tu sais, il y a quelque chose, tu sais, ils sont en motoneige, parce qu'évidemment, il faut être en motoneige au Québec, mais tu sais, c'est des vieilles motoneiges de Bombardier, quand c'était encore Bombardier, puis tu sais, des choses comme ça, donc c'est intéressant. La seule chose qui manquait, c'est, bon, ça aurait été vraiment cliché, mais c'est une scène de cabane à sucre, là. Mais autrement, tu sais, c'est ça, c'est le Québec d'antan, en même temps, le Québec moderne aussi, tu sais, bon... en même temps, c'est ça, le Québec était lui aussi un point tournant d'un peu de son histoire. Bon, c'était juste avant les Jeux olympiques, mais tu sais, on est dans ce coin-là, le Québec vraiment s'ouvre. On a eu l'exposition universelle déjà, le Québec est déjà un peu plus ouvert sur le monde. Bon, puis c'est à l'époque aussi, on parle d'immigration, mais c'est un peu à l'époque aussi des boat people, là, les réfugiés de la guerre au Vietnam, puis dans cette région-là, donc... La question de l'arrivée des immigrants, puis la question de l'arrivée des réfugiés, ben c'était déjà au cœur des préoccupations, donc ça rejoint un peu ce thème-là. Mais c'est ça, il manque un petit peu de oomph peut-être pour vraiment qu'on fasse une forte recommandation. Mais bon, on a quand même effectivement, c'est un film intéressant à voir. Puis bon, on peut souhaiter qu'Henri Pardo, réalisateur, continue de se pencher sur ces questions-là, parce que je pense qu'on manque peut-être de. Ben j'allais dire. Est-ce qu'on manque de films sur l'immigration au Québec? Peut-être sur la communauté haïtienne. On a eu beaucoup, bon, récemment, il y a eu Richelieu, entre autres, qui parlait des travailleurs étrangers temporaires qui venaient d'Amérique du Sud. Mais là, tu sais, je pense qu'il y a peut-être des choses à creuser sur l'intégration des Haïtiens au Québec. Bon, c'est une idée comme ça, mais toi, t'en penses quoi?
Ben, on avait parlé il y a... un an et demi de Cette maison de Myriam oui. Charles, qui était un film qui traitait quand même de Haïti, tout ça. Ça se passait pas vraiment, un peu au Québec, un peu aux États-Unis, mais on voyait quand même un peu le Québec de il y a plusieurs décennies, tout ça. Puis je trouvais que c'était un film qui était peut-être plus expérimental, fait qu'on avait moins le côté... concret et réaliste de dépeindre l'immigration au Québec. Puis comme je disais, c'était pas le film au complet, mais il y avait un petit peu de ça. Je pense qu'on voyait un référendum un moment donné pendant le film. mais c'est vrai que c'est ça. C'est pas ce qu'on voit le plus dans le cinéma québécois. Fait que ça pourrait être intéressant d'en faire plus. Là. Mais j'avais une autre idée pour un prochain film d'Henri Pardo.
Oui, oui.
Je trouve qu'on pourrait voir peut-être une suite de ce film-là où que Rico est rendu adulte et sa quête de vengeance comme Monkey Man.
Ça serait très bon, ça serait... Non, mais honnêtement, un film d'action, tu sais, Monkey Man, c'est pas un scénario tout cassé, là, mais tu sais, un film d'action dans ce genre-là qui se passe à Montréal... Ça marcherait. Un film québécois, tu sais, on n'a pas ça. On n'a pas vraiment je sais pas si c'est une question de budget. Pourtant, Monkey Man, ça a rien coûté.
Mais le lien que je faisais, c'est que c'est deux films complètement différents, mais Monkey Man, il y a quand même beaucoup de scènes qu'on voit le personnage enfant, puis il y a des trucs de mythologie indienne dans ce cas-là, puis il y a des trucs plus tragiques, puis tout ça, puis je me disais, tu sais, je dis pas que Carnaval aurait dû être un film d'action, pas du tout, mais on en voit vraiment pas beaucoup au Québec de dire OK, on peut traiter de sujets qui sont importants, puis de parler de, mettons, d'immigration, tout ça, mais pourquoi pas le faire à travers un film de genre, puis avoir peut-être de l'action ou du moins plus de suspense, tout ça, mais bon. Je divague peut-être un peu, là.
Ça serait bon. T'as un film d'action, ça se passe juste au boulevard Saint-Michel. Puis là, t'as des bagarres un peu partout, tu sais.
Dans une grande tour à appartement, là, genre The Raid.
Voilà, exactement. Merci, Kevin, d'avoir écouté Carnaval pour en parler avec moi.
Ben, merci à toi. C'est toujours le fun. Je trouve qu'à travers nos choix de films dont on parle au podcast, on va dans plein de directions. Puis je sais jamais où que la discussion va se rendre.
Parlant de discussion, on a encore quelques minutes. Ben, évidemment, on a bien le temps qu'on veut. C'est nous qui décidons. Mais bref, est-ce qu'il y a des choses récemment que tu as vues, que tu as appréciées ou moins appréciées?
Je te dirais que mon obsession du moment, il y a un nouveau film de La Planète des Singes qui sort cette semaine,
oui.
Que j'ai pas vu encore, mais en prévision d'aller le voir au cinéma, je suis en train de revoir tous les vieux films de La Planète des Singes. Je pense que je suis rendu au 4e.
OK.
Puis moi, c'est une série que j'affectionne beaucoup. Particulièrement ceux des années 70, plus que... j'ai quand même aimé ceux, les récents, qui sont plus CGI, mais je trouvais ça le fun, les vieux Planète des Singes des années 70, où que c'est vraiment des acteurs avec du maquillage, puis des protèges, puis des masques qui jouent les singes. Moi, c'est quelque chose qui me fascine complètement, puis en revoyant les films, c'est fou à quel point c'est audacieux. Je sais pas si tu les as déjà vus, les vieux.
J'ai vu le premier seulement, j'ai pas vu les autres.
Ben, le premier, c'est le plus connu, puis bon, je dirais pas le spoiler de 1968, mais bon, tout le monde le connaît un peu, il y a comme vraiment une fin choquante. Mais à travers les autres films de la série, c'est souvent des fins super nihilistes, puis tu sais, on faisait des blagues, tout le monde meurt, mais il y a vraiment un vieux film de La Planète des Singes, que ça finit que tout le monde meurt, tu sais, c'est... c'est des films qui étaient quand même grand public, qui étaient hollywoodiens à l'époque, puis c'est tout le temps fou de revoir ça, puis de dire, waouh, imagine un film aujourd'hui que tu fais avec des fins aussi déprimantes, là.
Ben, c'est ça, c'était une autre époque, effectivement, une autre vision du cinéma. Moi, j'étais... On a parlé, je ne sais pas si c'était au podcast, oui, on a parlé de Air, le film sur Nike, il y a un certain temps, puis j'avais mis ça dans ce que j'appelais le cinéma de promotion du capitalisme. En même temps, le cinéma, c'est généralement la promotion du capitalisme, mais ça, c'était votre minute politique, tout le monde. Mais c'est ça, il y avait une quantité de films, tu sais, Tetris, ils ont fait un film sur Tetris, ils ont fait un film sur BlackBerry, ils ont fait un film sur les Cheetos à un moment donné. Et j'ai découvert, que je suis sorti un peu dans le vide comme ça, mais ils ont fait un film sur les Pop-Tarts, mais sous la forme d'une comédie, avec Jerry Seinfeld qui joue là-dedans, et d'autres comédiens, là, comédiens, comédiennes, des humoristes connus, Jim Gaffigan joue là-dedans, je pense aussi. En tout cas, il y a plein de gens connus. Là, tu reconnaîtrais à peu près la moitié de la distribution. Et j'ai commencé à l'écouter, puis ça se veut pas sérieux. Tu sais, c'est autant d'humoristes que ça, clairement, ça veut être une dose d'humour, mais ça marche pas. J'ai arrêté d'écouter, je pense, après 20 minutes, ça ne marche pas. D'abord, on peut-tu arrêter de faire des films sur la création d'un produit? Pop-Tart, je veux dire, c'est pas... T'sais, oui, peut-être ça a marqué l'imaginaire là, une certaine époque, mais c'est un Pop-Tart, c'est pas quelque chose... T'sais, tu dis, OK, on fait un film sur développement d'Internet. OK, ça peut être intéressant, t'sais, bon, il y a peut-être des enjeux, tout ça, mais là, c'est le Pop-Tart. En tout cas...
Moi, je l'ai écouté au complet, mais c'est très, très, très mauvais, en effet. C'est la pire chose, c'est que c'est une comédie qui est pas drôle.
Ouais.
Puis non seulement pas drôle... Il y a souvent, je trouvais ça même insultant que ça soit ça, les tentatives d'humour, là.
Mais c'est ça, je me dis. Je dis, tout le monde a eu son chèque, clairement. Il y a personne qui a vu le script qui a dit, non, moi, j'ai pas envie de faire ça, c'est poche. Tu sais, Jerry Seinfeld n'a pas besoin de travailler, là.
Ouais, c'est lui qui a co-scénarisé le film, qui l'a réalisé. Fait que je pense que lui, c'était vraiment son projet, mais pour quelqu'un qui est quand même un super bon humoriste et qui a fait la série Seinfeld, que j'adore, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça, c'est vraiment raté, là.
Ben, je pense que c'est un cas, tu sais, j'ai déjà vu ça au théâtre puis ailleurs, c'est, tu te mets en gang d'amis, puis là, t'as une idée, puis tout le monde trouve ça trippant parce que tout le monde est chumé, tu sais, puis finalement, il y a personne qui est en dehors du cercle qui dit, non, c'est de la chenoute, là, pourquoi vous voulez faire ça? Puis tu te ramasses avec quelque chose que les amis, la famille trouvent ça bien, bien bon, puis le reste, c'est comme, voyons, pourquoi? Tu sais, pourquoi avez-vous créé ça? Bref, ça s'appelle Unfrosted. N'écoutez pas ça. Ça vaut pas la peine. Mais voilà. Puis en terminant, tu m'as dit, ça c'est peut-être un rendez-vous qu'on se fera, en tout cas on verra si on fait quelque chose avec ça. Il va y avoir une version du réalisateur de Rebel Moon.
Ouais, je sais pas si ça me tente de... Je suis curieux de voir la version, puis tu sais, c'est une version non censurée avec... extra-violence et nudité et vulgarité, mais
oui.
Je pense pas qu'il peut vraiment sauver le film, là.
Écoute, moi, s'il y a quelque chose dont j'ai besoin, c'est du sexe pendant que je récolte mon blé dans l'espace.
Ouais,
exact. C'est vraiment ça, ça, c'est essentiel. Enfin, on verra si on fait quelque chose avec ça, on verra si c'est écoutable ou pas. Je suis curieux parce que, bon, la Snyder Cut de Justice League, semble-t-il que c'était meilleur que l'original. On verra si là, c'est réchappable de le Rebel Moon et peut faire quelque chose avec ça. Bref, voilà. Donc, on va terminer l'épisode là-dessus parce que sinon, on va tomber dans les tréfonds cinématographiques dont on ne pourra jamais ressortir. Kevin, merci encore. Merci à ceux qui nous écoutent, bien sûr. Avant de vous laisser, deux choses comme toujours. On a la section exclusive qui s'appelle La Voûte. La Voûte, c'est des épisodes sur des films qui ont marqué leur époque. Tantôt, je faisais une référence à Terminator. C'est parce qu'on a réécouté et on a critiqué Terminator récemment. On va d'ailleurs se parler bientôt, toi et moi, pour Terminator 2. Donc, évidemment, la suite avec Arnold. Si vous voulez écouter ça, faut absolument s'abonner. Faut aller sur Patreon. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Ou sinon, c'est très simple. patreon.com/pieuf.ca P-O-I-N-T.ca P-O-I-N-T.ca, c'est niaiseux. Bref. Pieuvre, P-O-I-N-T-C-A, voilà, on va y arriver. C'est seulement 5$ par mois. Vous avez accès à l'entièreté des archives. On vous met au moins un film de plus, une critique de plus par mois. Et sinon, vous pouvez aussi acheter des épisodes à la pièce. Je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre de Pieuvre. C'est gratuit. Ça vous donne accès à l'ensemble des contenus qu'on publie chaque semaine sur le site, y compris, bien sûr, les épisodes de podcast. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.